autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur l'avenir et le développement de l'Afrique en général et du Gabon en particulier avec un éminent penseur du continent, le philosophe Bonaventure Mvé Hondo. À chacun sa raison, pour reprendre le titre de son ouvrage de référence, nous interrogerons les mythes et les réalités du Gabon, chercherons à identifier ce qui bloque, ce qui fâche et ce qui pourrait évoluer de l'invisible au visible, comment relever tous les défis, comment sortir de la fracture scientifique, comment trouver et donner du sens pour inventer un futur commun autour de la question « Quel Gabon pour demain ?» Bienvenue. Bonjour Bonaventure Mvé Hondo.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous, ici à Paris, pour réfléchir ensemble au Gabon comme il va et vers où il va. Question ouverte lors de la semaine que nous avions passée à Libreville et qui nous semble important de nous poser avec vous. Vous êtes philosophe, Bonaventure, auteur de nombreux ouvrages. On peut citer Sagesse et Initiation à travers les contes, mythes et légendes Fang, Afrique, la fracture scientifique et À chacun sa raison, raison occidentale et raison africaine, aux éditions L'Harmattan. Vous avez été professeur et recteur à l'Université du Gabon, parallèlement au poste de direction que vous avez occupé à Dakar, Montréal et Paris au sein de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous faites aujourd'hui partie de nombreux think tanks, vous continuez à enseigner et vous réfléchissez aux problèmes, aux questions, aux défis qu'affronte aujourd'hui le continent africain. Ce sont des questions que vous cherchez à relever en tant que philosophe. C'est aussi ou d'abord aux philosophes, aux penseurs de s'emparer de ces questions-là.
Je crois, que, comme disait Paul Ricoeur, que le propre des intellectuels et des philosophes, c'est de clarifier les concepts. Nous sommes au quotidien envahis par des choses, par des certitudes. Et du coup, on ne voit pas toujours où vont les choses, on ne voit pas toujours ce qu'il y a derrière les choses, ce qui est caché et qui peut-être commence à faire sens et qui va finalement marquer comment dire l'avancée des sociétés, l'avancée des changements. Quand on parle de l'Afrique, on voit les clichés habituels, c'est l'Afrique des villages, l'Afrique des traditions, l'Afrique des mythes, mais l'Afrique ce n'est pas que cela. L'Afrique, c'est aussi l'Afrique moderne, c'est l'Afrique qui s'engage dans le numérique, c'est l'Afrique qui s'engage dans la science, mais l'Afrique qui aussi évolue elle-même. Les cadres qui l'ont constituée ne sont plus tout à fait ceux qui la constituent aujourd'hui. Et pourtant, est-ce que nous sommes sûrs de voir vraiment cela? Est-ce que nous sommes sûrs de voir cette herbe verte qui commence à pousser, mais qui le fait sans bruit?
Autour de la question « Quel Gabon pour demain ?» On va pas faire trop de bruit, mais on va essayer de la voir, cette herbe qui pousse, avec ses premières pistes de réflexion sonore, très inspirées, avec le mix de Guillaume Ploquin, notre réalisateur.
Le Gabon de demain doit d'abord se bâtir sur des hommes.
Appelle-moi l'Africain, l'or est comme une dent l'Inde, c'est bronzé qui même sans rien, ça veut c'est quelqu'un.
La situation du Gabon est très dynamique.
Nous avons le souci de raffermir notre identité culturelle en même temps que nous voulons vivre la modernité.
Il est impossible de nos jours de pouvoir développer un pays sans se servir, sans s'appuyer sur les TIC.
Regarder vers l'avenir, c'est précisément faire comme tous les systèmes vivants qui sont toujours orientés vers une finalité plus haute, la finalité de demain.
Il y a des fractures par rapport à la science, c'est pas le même monde, c'est pas la même culture.
Quand il y a non seulement élections, mais tous les mouvements politiques, il faut toujours le sang humain.
La science arrive là, elle est occidentalocentrée, et donc ceux qui vivent la science en Afrique le vivent forcément de manière négative, voire parfois même très critique.
On avance évidemment avec ce qu'on est.
Notre défi, c'est au fond de créer les conditions d'un développement durable post-pétrole. Ils sont pas très nombreux, ils habitent essentiellement dans deux ou trois grandes villes. Ça, c'est le grand défi du Gabon.
Il faut que nos États prennent la responsabilité de renforcer la formation. Il faut avoir des chercheurs qui soient bien formés pour relever le défi du développement. Il y a énormément de ressources.
Et Bonaventure, il incarne bien le Gabonais moderne parce que c'est un monsieur très cultivé, mais c'est quelqu'un qui a une autre facette.
Arrive donc un certain nombre de grandes questions.
Des grandes questions que nous allons essayer de soulever avec vous, Bonaventure Buando. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Mais d'abord, quelques mots de ce que j'ai entendu. Je pense que c'est cette diversité de points de vue et je dirais même de cette variété de points de vue qui me donne de l'espoir. C'est qu'au fond, nous sommes donc tous dans le débat. Ça prouve aussi qu'il n'y a pas de certitude avérée. Certes, il y a des paramètres démographiques, il y a des paramètres environnementaux, mais c'est pas ça qui fait un pays. Ce qui fait d'abord un pays, ce sont les hommes et les femmes qui y vivent et qui ont envie d'y vivre ensemble.
Et justement, au Gabon, autour de la question quel Gabon pour demain, Bonaventure Buando, le Gabon, ça fait sûrement partie de ses atouts, c'est d'abord le pays de la diversité à tous les niveaux, hein, diversité humaine, diversité de la nature.
C'est vraiment, je pourrais dire, le pays même de la diversité. Diversité, effectivement, de la nature. C'est vrai que c'est une sorte de paradis terrestre où il y a tout.
Recouvert de forêts.
Recouvert de forêts. C'est vrai que il y a des capacités géologiques incroyables. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes et des femmes, des ethnies dans un espace qui représente la moitié de la superficie de la France, avec un peu plus d'un million d'habitants. Nous voilà devant plein d'ethnies, plein de langues. Donc en réalité, il y a Tout est là au départ pour, au fond, pour que ça ne se communique pas, pour que chacun se nidifie dans son coin, mais bizarrement, dans tout cet espace, des relations vont s'organiser, vont s'installer et qui vont créer ce qu'est le Gabon aujourd'hui.
On peut parler d'une identité ou d'une nouvelle identité gabonaise, Bonaventure?
Moi, j'aimerais dire que, au fond, le Gabon est une invention récente.
Post-colonial.
Mais ce qui est nouveau, je crois que les uns et les autres le voient bien, ce qui est nouveau, c'est que il y a une trentaine d'années, par exemple, c'était connu, en tant que chercheur, on nous avait demandé de mener une étude à l'université sur les mariages, pourquoi des étudiants et des étudiantes gabonaises ne se mariaient pas entre eux. Il y avait bien sûr quelques cas, restaient dans leur ethnie, restaient dans leur paradigme. Et puis, aujourd'hui, nous vivons le grand basculement. On peut le dire, il y a une mutation anthropologique extraordinaire. On est passé quasiment, je dirais, de l'âge, un basculement terrible qui fait qu'on est passé aujourd'hui à un pays où il n'y a plus de familles mono-ethniques. Ça veut dire que
ça se mélange.
Ça veut dire que les uns et les autres sont ensemble. Ça veut dire que des dialogues se sont constitués, que des familles se sont constituées, que cette diversité, certes, ne s'est pas réduite, mais au contraire, s'est organisée pour que finalement chacun soit avec l'autre.
Et ça s'est organisé évidemment aussi dans les villes, parce que vous le disiez au début, hein, parmi les clichés qu'on peut avoir, c'est l'Afrique des villages. Alors, au Gabon, pays de forêt, la population est regroupée dans les villes et principalement à Libreville, dans la capitale.
On peut se poser des questions, comment ce phénomène en est-il arrivé là? Bien sûr, moi j'y vois, je dirais, deux forces majeures qui ont amené à cela. D'abord, la force de la scolarisation, qui dit école, dit finalement, et l'école a été un lieu d'exode rural, puisque dans les villages, il n'y avait que des petites écoles, il fallait donc bien aller au lycée, au collège, et tout cela se faisait dans des grandes villes. Donc, il y a eu un mouvement des villages vers la ville, mais en même temps, par rapport à ce mouvement, s'est constitué donc l'urbanité, c'est-à-dire l'urbanité qui casse, je dirais, les relations mono-ethniques, et qui, à la ville, mais dans des quartiers, dans des lieux, des ethnies avec d'autres, des individus avec d'autres. Et donc, du coup, se crée autre chose. L'autre dont au départ on va en avoir peur, petit à petit, va devenir le sien. Et on va s'apercevoir que finalement, eh bien, c'est un monde qui parle ensemble. Et de troisième vecteur, peut-être on aura le temps de le dire, mais ce qui est arrivé aussi par la scolarisation, c'est la langue française.
La langue française avec les autres langues, mais la langue française qui est parlée par tous au Gabon.
D'union, voilà, langue trait d'union de tout le monde.
Donc il y a des mutations qui sont en cours, il y a aussi une violence au Gabon, une violence souterraine, une violence plus invisible que vous dénoncez également, Bonaventure Buando.
Alors, nous sommes dans une société qui est en train de se constituer, bien sûr, avec ses imaginaires. le monde de la sorcellerie, le monde de la pensée magique, le monde et tout cela fonctionnait dans une économie particulière, économie sociale traditionnelle, etc. Donc, dans cette économie traditionnelle, etc., comment fonctionnaient les relations à l'intérieur du village? C'était des relations d'égalité. Tout le monde faisait partie de la même famille, nous étions les enfants des mêmes pères et d'une même mère, et à partir de ce moment-là, nous avions chacun la même part d'héritage. Or, selon ce principe, la rupture, la violence vient du fait que un des individus s'accapare l'ensemble des biens. Donc du coup, la sorcellerie vient de là. Donc il faut rétablir les équilibres, etc., etc. D'où ce qu'on entendait, etc. Or dans la nouvelle société, et c'est là où il faut faire attention dans les amalgames. Dans la nouvelle société, d'abord moderne aujourd'hui, le principe d'égalité n'est pas un principe, je dirais, naturel. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est les individus, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Or, on ne peut pas fonctionner en disant tout le monde a la même chose parce qu'il est né là, mais on ne peut fonctionner que sur la base où que les individus qui veulent travailler, travaillent, et à ce moment-là, ce qu'ils font simplement, c'est de pouvoir donner une quote-part à ceux qui ne travaillent pas. Donc, en termes de dimension de solidarité.
Donc, il faut changer vraiment de mentalité.
Donc, enfin, il faut changer de mentalité. Donc, la pensée magique, la pensée des crimes rituels, la pensée sorcellaire qui amène à tout ce fatras, au fond, est une aberration, une perversion de l'ancien système et qui tente de se maintenir dans le monde moderne d'aujourd'hui.
Autour de la question quel Gabon pour demain et comment donner sens à toutes ces questions et à toute cette diversité, on va laisser le plus grand ambassadeur musical du Gabon, Pierre Akendengue, apporter sa réponse sur RFI. Extrait de l'album Lambaréné, savant mélange de Bach et de musique traditionnelle, orchestré par Hugues de Courson et Pierre Akendengue. Une rencontre que vous avez d'ailleurs un peu initiée, Bonaventure Mvuondo, on va y revenir après l'avoir écouté. Jean-Sébastien Bach et l'Afrique, extrait de l'album Lambaréné, Pierre Akendengue et Hugues de Courson sur RFI. Vous êtes un petit peu à l'origine de ce projet musical entre Afrique et Occident, Bonaventure Mvuondo.
Tout à fait involontairement. Il se trouve que j'avais reçu un jour un cinéaste camerounais, Bassek Bakobio, qui voulait faire un film sur Schweitzer, et arrivé à Libreville, on l'a bien voulu l'amener à mon bureau, et à titre de conseil, je lui ai demandé s'il était déjà allé à Lambaréné. Il m'a dit non, mais le film se tournera à Yaoundé, au Cameroun, et s'il le connaissait, Pierre Akendengue m'a dit non. Je lui ai dit, allez d'abord à Lambaréné, vous verrez qu'on ne peut pas tourner un film sur Schweitzer, en dehors de Schweitzer. Mais deuxièmement, moi, je connais Pierre Akenenge, quand j'étais au lycée, c'était un, il jouait déjà du Bach, et moi, je savais que, Schweitzer adorait jouer du Bach, et que c'était la seule personne qui pouvait faire une sorte de mélange musical entre la musique de Bach et la musique gabonaise. Et il se trouve que la personne qui amenait Bacek Bakobio a dû en souffler un mot à Pierre Akenenge et à d'autres, et l'idée de Lambaréné est arrivée.
Ainsi, hein.
Et j'en suis très très heureux. Mais
ah oui, album réussi. Hein.
Voilà.
Autour de la question quel Gabon pour demain, on va maintenant remonter aux origines de la vie multicellulaire, découverte presque par hasard dans une carrière proche de Franceville au Gabon par le géologue Abderrazak El Albani, une découverte qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux scientifiques internationaux, la une de la prestigieuse revue Nature, une nouvelle publication le mois dernier dans Science, qui a fait du bruit elle aussi, car cette découverte d'une vie multicellulaire aussi diversifiée depuis plus de 2 milliards d'années remet tout en cause, à commencer par l'apparition même de la vie sur Terre, bien plus ancienne qu'on ne le croyait jusqu'alors. On écoute Abderrazak El Albani.
Aujourd'hui, à 2 100 milliards, dans ce magnifique bassin de Franceville, on a une biodiversité. Et c'est ça qui est intéressant. À partir de ce moment-là, on peut se poser plein de questions. Donc ça intéresserait les généticiens, les biologistes, ceux qui travaillent sur l'horloge moléculaire, les géologues, les paléontologues, même, je dirais, entre guillemets, les martiens, les gens qui travaillent sur Mars. Donc ça intéresserait, je le sais maintenant, parce que je reçois beaucoup de demandes, de discussions, etc., qui me font plaisir, parce que ça ouvre pas mal de débats, dans le sens positif du terme. Et c'est ça qui est important. Donc ce schéma-là, dessiné ici dans le bassin de Franceville et qui est très clairement identifié, montre que la vie n'est pas comme on l'avait dessiné jusqu'à il n'y a pas longtemps dans les bouquins. La vie, les choses sont beaucoup plus complexes parce qu'elle a pu émerger, se développer, se biodiversifier, si je puis dire. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on se pose les vraies questions par rapport à tout schéma évolutif, par rapport à l'horloge moléculaire, etc., etc. Et donc vous voyez, les implications sont multiples.
Bonaventure Mvondo, cette découverte dont on ne mesure pas tout à fait encore l'importance, hein, les implications, elle a eu quel impact au Gabon?
À vrai dire, je crois qu'elle n'a pas eu d'impact. Je dirais au-delà de la... le fait qu'on en a entendu parler à la télé, à la radio, mais elle n'a pas eu d'impact. Pourquoi en réalité? Parce que le Gabon est là comme un réceptacle. Et que ce soit ceux qui ont mené cette recherche, que ce soit en termes d'explication dans la société, pourquoi? Quelle leçon nous devons retenir de cela? Pas simplement d'être fiers en disant, oui, là aussi, comme dans nos équipes de football, nous sommes heureux d'avoir été qualifiés pour aller à la Coupe du Monde. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour le Gabonais qu'on ait fait cette découverte chez lui?
Des origines de la vie. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour les chercheurs, pour les scientifiques, pour les vocations à venir?
Or, si nous avons affaire à une science qui est extravertie, une science qui ne répond pas à nos propres questions, donc forcément, ça passe comme quelque chose qui n'intéresse pas le Gabonais. Donc il faut, et c'est là où justement, ça veut dire qu'il faut que on embraye la science sur les problèmes aussi du Gabonais. Il faut que le Gabonais se sente investi. Il n'est pas simplement un observateur
de ce qui se passe chez lui ou ailleurs.
Il faut qu'il participe, il faut qu'il se rende compte que quand on fait de la science chez lui, c'est pas seulement pour cette question de la vie, mais que cette question de la vie a des conséquences sur le traitement des maladies d'aujourd'hui, sur son quotidien, etc., etc. Et que qu'il y a une sorte de boucle qui fait que plus on fait cela, plus ça améliore, je dirais, le fonctionnement des services de santé, plus ça améliore. Donc, tout ça doit être une chaîne. Si la science se tient, je dirais, uniquement en dehors du processus de la vie des gens, donc cette science, je dirais, extra, eh bien, elle n'aura pas d'impact. Or, ce que je crois qui est important aujourd'hui, et en Afrique, et pas seulement en Afrique, dans le monde, c'est que la science vienne impacter la société pour changer les comportements, pour que les gens évoluent et que leur conscience, leur pleine conscience des réalités devienne encore plus affirmée.
Autour de la question « Quel Gabon pour demain ?», on continue de se poser toutes les questions, même celles qui fâchent et celles qui font avancer, bien sûr, avec vous, Bonaventure Mvondo. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash d'info. À tout de suite.